Bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier Labisse, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode bonus, David nous éduque. Et oui, au dernier épisode, on s'est un peu emporté. Ça faisait un petit bout de temps là, qu'on vous était pas revenu. Fait qu'on a jasé plein d'affaires. Et on a remarqué que l'épisode s'étirait un petit peu. Fait que on a fait un épisode bonus où David nous éduque par rapport à César. Puis je pense que c'est Ambiorix, je suis comme pas trop sûr. Bon, je vais vous avouer que la première fois qu'il a dit ce nom-là, je pensais que c'était une sorte de céréale. Mais vous allez voir, c'est vraiment cool de la façon dont il amène tout ça. Puis ça donne des bonnes idées aussi pour nos games. Donc, sur ce, sans plus attendre, je laisse David nous éduquer. Bonne soirée peinture! David nous éduque. David, ça fait deux semaines qu'il n'y a personne qui a essayé de m'éduquer. Puis on dirait que je m'ennuie de ça. Fait, mettons que tu me réalises un rêve, là, éduque-moi donc.
D'accord. Alors, j'ai de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui.
Un troisième enfant.
Une bonne nouvelle pour vous, ça, je ne sais pas.
Ben, moi, je suis content pour toi, Eddie. Oui,
merci.
Ça fait plaisir. Alexandre Guidry a joué une game avec toi d'un jeu qu'on ne se rappelle pas le nom? Ah, c'était pas non. Un jeu de réponse?
Non.
Ah, ok.
Non, c'est plus simple que ça. Là. On est dans la simplicité aujourd'hui. Là. War Game Soldier and Strategy numéro 124 est sorti en version digitale.
Ah, j'étais allé chercher crissement loin mon affaire. J'étais allé bien trop loin.
Et le thème de ce numéro, c'est Wargaming in the Cockpit of Europe, la Belgique. Donc, jouer des jeux de guerre dans le cockpit de l'Europe.
J'espère que c'est ça ta traduction, parce que sinon celle que moi j'avais, c'était pas ça.
Encore une fois, un petit numéro bien intéressant. Ils vont passer à travers plusieurs époques. C'est ça que j'aime des fois de leur thématique, là, c'est que c'est pas juste une époque, fait que tu vois plusieurs types de scénarios. Sur la thématique des articles intéressants. Donc, la Belgique. Puis là, ce que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est deux scénarios. J'aime ça des fois, au lieu de faire un scénario, ils vont présenter deux scénarios en un. Fait que c'est comme, il y a comme une continuité. Je trouve ça intéressant parce que tu sais, souvent, on pense soit on se fait une partie avec un scénario ou on se fait une campagne de 10 scénarios. Là, c'est comme un format auquel je ne pensais pas souvent. C'est comme, non, ce qu'on va faire, c'est deux games.
T'sais. Ben oui, clairement.
Je trouve ça intéressant qu'ils ramènent ce modèle-là plus souvent. Mais donc, le titre de la série de deux scénarios, c'est Belgae Bravest of the Gauls. Je vais vous expliquer. Vous excuserez mon accent qui me faisait dire des drôles de choses tantôt. Mais
ça me fait dire encore des drôles de choses maintenant.
Ouais.
Ouais, ça n'a pas changé.
Belgae, c'est le nom des tribus belges de l'époque de César. Et ils étaient considérés comme les Gaules, faisant partie des Gaulois. Et apparemment, ils étaient les plus braves.
Apparemment.
L'auteur, c'est Peter Van Dopp. Et donc, ce qu'il va nous parler, c'est... À l'époque de César, les Belges étaient considérés comme vraiment redoutables. Ils ont résisté aux Cimbres, aux Teutones, mais ce qu'ils ont plus fait connaître, c'est leur chef Ambiorix. Puis là, s'il y a des fans d'Astérix dans nos auditeurs auditrices, apparemment, il apparaît dans une des bandes dessinées.
Hey, enfin, quelque chose que je vais comprendre.
C'est vrai.
Il y a du name dropping de gars qui connaît des affaires historiens. Je ne suis pas plutôt Kevin, moi.
Ben honnêtement, j'avais hâte de me faire dire quelque chose que je comprenais. Fait que moi aussi, je suis un peu content qu'il y ait des bandes dessinées dans ton affaire, David. J'ai comme l'impression que c'était comme adapté à nous.
On pourrait se faire un épisode sur Wargaming Astérix. Ça pourrait être cool.
Ouais, ben là, d'un côté, on a dit quelque chose qui fit avec nous. On n'a pas dit qu'il fallait absolument que ce soit juste pour nous.
Ah, tu penses qu'il n'y aurait pas assez de fans?
On verra des commentaires!
Mais surtout, il est responsable d'une des plus grandes défaites de César. Tu sais, César, qui est le gars dont on parle encore aujourd'hui comme c'est une figure emblématique des Romains, des Légions puis de leur victoire militaire.
Encore une fois, combien de généraux ont un nom de salade à eux autres, hein?
Ah, ça!
Et voilà.
Donc, le monde cherche le nom de d'autres générales qui ont des salades.
Tant qu'elle est sur le thème, puis à parler de la salade, justement, sur Audio, sur Radio-Canada, il y a une série de 3 épisodes de Charles Beauchesne.
Oui.
Sur les pires moments de l'histoire, et sur la chute de l'Empire romain, et il parle à un moment donné de César qui a sa salade, alors qu'il a été moins bon qu'Auguste qui l'a suivi, qui est apparemment un des meilleurs empereurs, puis qui n'a pas un autre salade, puis que lui, il méritait mieux un autre salade.
Ah! C'est là que tu vois que des fois, on se fait pas d'amis avec de la salade. Ça aurait été ma référence aux Simpsons.
C'est bon. Mais Charles Beauchesne, c'est aussi une bonne source humoristique, mais d'inspiration pour le Wargame. Ça vaut la peine avec les pires moments de l'histoire.
T'es rendu à utiliser l'humour pour essayer d'amener les gens à faire l'histoire. Là.
Ah, mais...
Bravo, David. T'essayes tout! T'essayes tout!
Et je diversifie mes techniques. Donc, premier scénario. Le piège d'Ambiorix. Contexte. Souvent, aux frontières de l'Empire romain, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des alliances avec les tribus. Les Romains étaient un peu bullies et forçaient à nourrir leur garnison, mais ça faisait qu'après ça, ils gardaient la paix. Fait que ta tribu pouvait vivre là, tu nourrissais l'armée romaine, la paix était respectée, puis tu servais un peu de tampon contre les autres tribus barbares qui l'envahissaient.
La belle vie, quoi!
La belle vie, quoi! Sauf que qu'est-ce qui arrive quand il y a des mauvaises récoltes? Les Romains, c'est pas des gentils-gentils. Ils veulent quand même que tu leur donnes le même quota de grains. Ce qui fait que souvent, il y a des révoltes. Puis c'est le cas des Éburones, donc la tribu d'Ambiorix. Arrive une mauvaise récolte, ils n'ont pas le grain pour le faire. Fait qu'Ambiorix, il décide de faire quelque chose pour ça, mais il est astucieux. Fait qu'il convainc les dirigeants romains. En fait, il y a une révolte dans son peuple qui se met à attaquer les garnisons romaines. Ambiorix va voir les Romains en disant « Non, 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 c'est pas moi, ça s'est fait à l'insu de mon plein gré. » En fait, c'est des Germains. Ils ont traversé le Rhin, puis ils viennent vous attaquer. Puis là, on les a vus, là. Il y a une grosse armée qui arrive d'ici 2 jours.
Là, tu dis « Ils ont traversé le Rhin parce qu'il n'y avait pas la foi. » Oh, hein? OK. Je m'excuse.
Non, mais c'est bon, tu sais, quand même.
Il y a du monde qui suit l'histoire. Moi, c'est la biologie. Moi, ça me parle.
Ça se touche. Un peu.
Je ne sais pas si dans l'épisode où tu veux parler de manipule et de phalange, tu as vraiment envie de parler d'affaires qui se touchent. Là, David, tu pousses. Là. Je vais arrêter d'intervenir dans ton segment. Là, parce que...
Les Romains ont 2 choix. Soit rester dans leur camp et subir un siège, ou rejoindre un autre camp à environ 80 km. Ambiorix, il leur dit, écoutez, on va vous garantir un sauve-conduit, c'était passage en anglais, vous allez pouvoir vous rendre à l'autre camp, c'est la meilleure chose à faire, puis nous autres, on va retarder les Germains s'ils s'en viennent. Donc là, les dirigeants romains ne sont pas sûrs, mais finalement, la majorité décide, OK, on le fait. Mais c'était un piège! C'est allié avec des Germains. Puis ils attendent sur le chemin. Là, je vous ai mis une petite carte. C'est la carte du premier scénario dans notre salon textuel général. Dans le fond, le premier scénario, c'est ça, c'est le piège. Donc, les Romains sont en ligne de marche sur un passage. Et les Germains et les Gaulois, ou les Belges, attaquent des 2 côtés. Il y a 9 unités. C'est fait pour jouer avec Hail César, qui est un jeu de Warlord Games.
Okay.
Les Gaulois ont 9 unités avec. Ils s'opposent à 6 unités de Romains, en plus des bagages. Puis là, le bagage, c'est souvent là que le trésor qui sert à payer les troupes, c'est là qu'il y a la nourriture, c'est là que les tentes, etc. C'est super important. Puis c'est pour ça que vous allez regarder sur la carte, j'ai mis un petit rond autour, c'est dans le milieu de la colonne. Donc, ça, c'est au milieu d'un ravin. Fait que ça donne les Gaulois. Puis en fait, comme ils vont se battre à une différente hauteur, on ne le voit pas souvent, ça. Je l'avais vu, il l'avait avant dans les premières versions de Fantasy, mais je pense qu'on ne le voit plus dans les jeux récents de Game Workshop, là, mais il y a des bonus puis des malus de hauteur. Il y en a-tu encore de ça, ou on ne joue jamais avec, c'est pour ça?
C'est parce que tu me refuses d'utiliser mes crises de moto pour monter ses murs.
Ouais, c'est une bonne raison de ne pas utiliser.
Ben oui, hein, tout d'un coup, le Power Gamer, il ne peut plus me donner mes bonus. En plus, il brime ma créativité. Non, mais je pense que pour les batailles de masse, Games Workshop a eu tendance à les délaisser un petit peu.
Ouais, hein?
Mais pour les jeux plus skirmish, je ne serais pas étonné que si on fouille dans Lord of the Ring ou dans Necromunda ou Kill Team ou on risquerait d'en trouver, je pense. Ne serait-ce que avoir un bonus de hauteur, genre plus 1, plus 2, reroll, whatever. Peut-être qu'on aurait un bonus de voici un avantage pendant ton combat, par exemple.
Oui. Mais tu vois, ça, c'est le genre de règle que je trouve que c'est juste assez circonstanciel pour que peut-être que tu n'as pas besoin de l'avoir dans ton livre de base, mais que tu le mettes dans ton scénario. Parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose que les gens se disent « Ah, faut que j'y pense » puis ils oublient. Quand tu le mets dans le scénario, ça devient quelque chose de spécial qui rajoute une saveur à ce moment-là.
Comme un King of the Hill, genre.
Oui, oui, oui. Puis tu sais, même les règles de décor, des fois, on souvent les oublie, mais si on faisait un scénario autour d'un décor, c'est là qu'ils deviennent, je pense, plus intéressants et que ça vaut la peine d'aller les chercher. Mais c'est vrai que...
C'est les seuls moments où moi, plus fait, on s'en rappelle, c'est quand on dit « Oui, le temple en plein milieu, c'est un temple maudit. »
Exact.
OK, parfait. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du scénario où on se bat pour l'artefact dans le temple maudit. Excellent. C'est quoi qui fait le temple maudit? C'est right film, je me trompe pas. C'est pas mal les seuls moments où on parle des règles de décor.
Ouais, pas mal. Hein. On les a pas mal tout le temps ignorés, sinon.
C'est ça. Tandis que c'est ça, si tu les gardes pour tes intègres au scénario au lieu de les avoir dans tes règles de base, peut-être que c'est, ils vont plus popper et ils vont plus avoir une raison d'être à ce moment-là.
100% d'accord.
Donc, pour le scénario, les conditions de victoire pour Ambiorix, c'est annihiler la colonne romaine. Ça fit avec le contexte, un peu basic. C'est pas nécessairement les meilleures parties qu'on joue, que le but c'est d'annihiler l'autre. Mais bon, ça fit avec le contexte. Les Romains, c'est de ramener le plus d'unités vers le camp et le plus de bagages. Là, dans le. Il n'y a pas full de règles spéciales. Ça me fait dire que sûrement que dans Hail Caesar, c'est mieux développé. Mais on l'avait déjà vu dans d'autres scénarios que j'avais présenté, l'idée du bagage ou quelque chose qui est à pied dans le milieu. Je trouve ça intéressant parce que tu as. Une citation dans le scénario, ça dit, excusez encore mon accent, individual legionaries left their posts to salvage what they could from the abandoned baggage train, and slowly but surely the Roman line was sapped of its strength. Fait qu'en gros, les soldats, les légionnaires, ils sont mis à aller chercher ce qu'il y avait dans le bagage pour le protéger, mais donc ils ont perdu leur cohésion. Puis c'est le genre de truc que soit il y a déjà quelque chose dans Hail Caesar qui l'explique, c'est pour ça qu'on l'a pas dans le scénario, mais que je trouve que ça vaudrait la peine de faire une petite règle de scénario pour ça. Qui fait que tes troupes, ben, ils se battent, oups! Mais là, ils sont un peu moins forts pour là parce que t'en as une couple qui sont occupés à faire autre chose. Puis même chose pour les Gaulois, tu sais, ils arrivent, peut-être qu'il y en a que, hop! Ah, mes amis, ils sont allés à l'assaut de l'unité, ben, moi, je vois une petite faille, je vais aller chercher ce vase doré en plein milieu. Ça peut être une dynamique qui est intéressante puis qui te change des batailles. Plus classique.
Ou genre, je suis occupé, il faut que j'aille parler avec Shirley. C'est de ça que tu avais dit dans ta description? C'était que Shirley était là sur le bord des bagages?
Quoi? Attends.
Enlève ta phrase.
Shirley. Shirley. Wow!
Tu vois, je fais des jokes phonétiques aussi. Je fais pas juste des jeux de mots, là.
Où est Shirley? Elle est avec les bagages.
Après, où est Carmen San Diego puis où est Charlie, on a où est Shirley?
Shirley.
Je pense que Max va se sentir sale parce que dans nos deux segments, il va avoir à couper des jeux de mots parce que...
Ouais. Hey, l'épisode cette semaine dure 30 minutes avec 20 minutes. Il va falloir que je fasse rouler la toune en boucle pour mettre tout ça à la fin. Hein.
C'est malade. Ben, tu vas avoir deux bouts de blooper anyway, vu que t'as un épisode bonus pis t'as un épisode classique. Fait que tu vas avoir mal de blooper à mettre.
Bon.
Ok,
on a un défi, notre première bataille d'antiquité. Faut qu'on aille un personnage spécial chez Shirley.
Ah ben, calice, check-moi bien de peindre Shirley. Shirley, c'est moi qui va peindre Shirley.
Oui, puis ça m'amenait aussi à notre réflexion des règles de désengagement. Dans les jeux de Game Workshop,
oui.
Généralement, se sortir d'un corps à corps, c'est très punitif, si je me souviens bien. Parce que c'est rare que j'ai vu sur une table, sauf quand l'unité a une règle spéciale qui fait qu'elle peut recharger ou tirer, tu sais, qu'elle enlève l'appui de la pénalité.
Ouais, je pense que quand l'unité, elle est faite pour faire de l'escarmouche, ouais. Du genre du hit and run, elle va recevoir des bonus qui vont lui permettre de mieux survivre ou d'enlever des règles qui seraient punitives. Mais en dehors de ça, en général, oui, il essaie d'éviter l'espèce de « j'y vais, puis je subis pas », mettons, je vais dire ça de même. Ou « je subis moins ». Mais ça, tu le vois dans certains jeux de rôle aussi, tu sais, Donjon Dragon aussi, il y a quand même des règles très punitives pour le retrait.
L'attaque d'opportunité?
Oui, c'est ça.
Mais qui est pas si... C'est un peu géré. Tandis que j'ai l'impression que dans la plupart des jeux qu'on fait de Game Workshop, c'est rare que ça va valoir la peine d'être désengagé, à moins que tu aies une autre unité pour retenir l'unité. En tout cas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, j'ai l'impression, je me rappelle pas pour 40K. Anyway, les règles changent, fait qu'on s'entorche.
Ouais.
Mais dans Age of Sigmar, si je me rappelle bien, c'est pas tant punitif. Si tu as, comme tu viens de dire, une unité qui va te permettre de pouvoir prendre le brunt. Parce que c'est vrai que si tu fais juste être désengagé, puis la personne, elle est encore devant toi, puis elle a le droit à 2d6 de charge, plus une phase de mouvement, tu vas jamais te désengager assez
pour
te mettre en position d'être safe. Fait que si c'est pas punitif en soi de te désengager, c'est pas tant avantageux non plus, à moins que ça soit planifié. Et là, c'est là qu'on rentre dans l'aspect stratégie. Si t'as fait un mauvais choix, tu vas être puni pour. Si t'as fait un bon choix, tu vas être récompensé pour. Ouais. C'est ma vision. Ça veut pas dire que c'est une... Ça veut pas dire que c'est ce que je préférais que ça soit, là. Mais je pense que c'est là où ce qui essaie de récompenser l'idée de faut que tu penses deux tours à l'avance.
C'est ça.
Si t'as fait une erreur, tu peux pas essayer à dernière minute d'improviser quelque chose parce que tu vas être puni, entre guillemets, ou pas récompensé à la limite pour quitter.
Ouais.
Ça a du sens.
Ben oui, c'est clair. Mais comme dans un scénario, où, celui-là par exemple, où les Romains, il faut qu'ils sortent leurs unités de la table, si on jouait avec des règles comme en ce moment, Age of Sigmar, dès que ton unité est en corps à corps, comme tu dis, ben moi, mon unité de Romain, je vais essayer de la sortir du corps à corps, mais tu vas me recharger.
Ouais.
Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on pourrait jouer un scénario comme ça, Age of Sigmar, ou les règles ne le permettraient pas?
De ce que je me rappelle, on avait fait le scénario avec Phil où est-ce qu'il fallait sortir de la table avec les Beasts of the Cold contre les Astra Militarum, puis il y avait un des stratagèmes du scénario de Vigilus qui était justement pour aider avec une phase de mouvement supplémentaire.
OK.
Fait que, par exemple, ça pouvait t'aider. Oui, tu fais une retraite qui est peut-être pas exactement ce que tu aurais besoin pour te mettre en dehors d'une zone de contre-charge. Mais tu pourrais utiliser un stratagème qui te permettrait de pouvoir bouger une autre phase de plus. Donc, si c'est utilisé au bon moment, donc par exemple, dans la phase de corps à corps ennemi, dans ta phase de mouvement à toi, tu t'en vas de ta phase de mouvement deux fois. Et après ça, tu as quand même le droit à tous tes autres mouvements avec tes autres unités. Donc là, tu peux venir positionner des unités pour pouvoir empêcher le gars de revenir. Et si c'est pas possible, ça reste que tu es quand même pas emporté facile de pouvoir le faire. Et ça t'amène, toi, plus proche de ton objectif, qui est de quitter la table. Donc, si t'es rendu à la fin de la dernière phase, puis que tu veux sortir de la table, puis que le gars, il a réussi une belle charge, puis t'es rendu sur le bord de pouvoir sortir, avec ce stratagème-là, tu pourrais réussir à sortir. Fait que ça raconte bien cette histoire-là, je pense. C'est pas parfait, on s'entend, là. Puis c'est pas une réussite assurée, mais ça raconte quand même bien l'histoire de dire comme, OK, il y a un dernier push, il faut qu'on s'en aille.
Oui.
C'est là qu'on met notre deuxième souffle. C'est là qu'on met notre effort.
Oui, puis c'est pour ça que c'est intéressant, les stratagèmes. C'est... Depuis qu'ils en mettent, je trouve que ça aide à enligner le scénario, à prendre les règles de base, puis à te les ajuster pour pouvoir vivre l'histoire que le scénario est supposé présenter.
Stratagème de scénario, I'm all in. Stratagème d'armée, s'il te plaît. Merci. C'est ça mon opinion.
Puis on l'avait fait aussi dans notre scénario Age of Sigmar, qui était basé sur la bataille de Fornu.
C'est qui me permettait de pouvoir monter sur les murs avec des motos?
Non, ça n'existe pas. C'est une fantaisie. C'est un cauchemar que je voudrais jamais vivre.
OK.
Oui. Mais
donc, tu disais pour le scénario qu'on avait fait de Wrath of the Ever Chosen, j'imagine?
Oui, c'est ça. Ben, on avait... C'était un scénario qu'on avait fait nous-mêmes, mais on avait rajouté la règle. Le but, c'est que moi, je passe à travers ces lignes, puis ça représentait la Furia Chaotica. Ben, c'était vraiment ça, de rajouter une règle qui permet que je passe à travers tes lignes, alors que les règles de base ne le permettent pas. Mais pour représenter l'idée que moi, Mon but, c'est d'aller avertir Archaon que, oups, les troupes, comment ils s'appellent?
Les Ossiarch Bone Reaper.
Les Ossiarch Bone Reaper ont commencé leur invasion du Eight Point. Ça se rajoutait.
Tu vois, quand tu parlais tantôt justement du scénario où est-ce que l'idée, c'est que tu dois payer comme ta dette aux Romains. Moi, ouais. Ça faisait penser justement aux Ossiarch Bone Reaper qui, eux, viennent chercher la dette d'ossement dans les cités. Ah, si tu ne payes pas, ben, ils t'assiègent puis tu vas souffrir. Ça me faisait penser vraiment à cette approche-là des Romains de dire tu payes ta taxe, pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Si tu penses que tu as un choix, ben bienvenue dans le monde où tu vas avoir mal.
Ils ont ce petit feeling Légion avec grand tacticien à leur tête, là.
Ouais. Tu sens l'inspiration. L'inspiration romaine dans cette armée-là. Même les crêtes sur les cavaliers. Puis ouais, tu le vois, là. Même moi qui n'ai pas historien, je le vois.
Bon, ben écoutez, fait que c'est ça, fait que mais par rapport à. Fait que ça, c'est le scénario, mais le résultat historique, ça a été un massacre. Les Romains se sont fait massacrer. Puis là, il y avait deux commandants romains dans la colonne. Il y en a un pendant les combats a décidé d'essayer de parlementer. Le deuxième a refusé. Ambiorix a accepté de parlementer, mais a fait exécuter celui qui est venu parlementer, puis l'autre, ben. Il s'est battu jusqu'au bout, puis il a été massacré.
Ben là! C'est là qu'ils sont devenus des Bone Reapers, c'est ça?
Oui, ça serait le bon moment, oui.
Quand on dit Games Workshop fait des jeux historiques, des fois, là.
Fait que ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je voulais pas tant rentrer dans les détails, là, mais c'est la fuite d'Ambiorix. Fait qu'au bout d'un moment, ben, c'est plate, mais c'est plein de tribus, puis ils supportent pas nécessairement à tout moment. Puis là, César a fait « OK, c'est lui le chef, c'est lui qu'il faut... » essayer d'attraper, fait qu'il a tenté de le capturer. Apparemment, lors de la bataille, il a réussi à s'échapper, mais on n'entend plus parler après ça dans l'histoire. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé avec lui. Mais la campagne de César a fonctionné. Il a assiégé son village, il l'a forcé à se pousser. Puis là, comme il n'était plus capable de rassembler d'armées assez fortes, puis de refaire son stratagème, il était un peu coincé. Là.
Il n'y avait plus de command point.
Il n'y avait plus de command point. Mais c'est intéressant, en Biorix, tout comme Vercingétorix, qu'on voit aussi dans Astérix, c'est des personnages qui étaient un peu sombrés dans l'oubli, puis au 19e siècle, avec le renouveau de l'exaltation de la nationalité, on cherche des héros dans l'histoire, ben c'est là qu'ils sont, ils ont été ressortis, donc Vercingétorix en France, puis en Biorix du côté des Belges, comme des figures ancestrales de résistance, mais qui montrent la force du peuple. Des beaux scénarios de Wargame.
Ben oui. Merci, David. T'sais, on voit déjà qu'on a des petites idées là, pour Age of Sigmar, des petites idées, mm-hmm. Les Ultramarines aussi. Là.
Oui.
Quelqu'un qui voudrait jouer des Ultramarines ou des Imperial Fist, il y a des belles idées là-dedans là, pour essayer de retenir et jouer le rôle des Romains, dans le fond.
Une ruse des Jane Seer Cult.
Oui, aussi. Ben, tu peux te dire ce que tu veux. On dirait que je suis comme pour toutes tes idées, mais c'est parce que tu nommes toutes les armées que je joue. Fait que oui, je vais dire oui.
Ne pas nommer une de tes armées que tu joues, ça devient difficile.
Bon, on fait du hobby shaming. OK,
c'est bon, je recommence. La révolte des Jasnir Cult contre les Luna Wolves qui gardent un monde impérial.
Tu veux dire qu'ils oppressent le peuple et qu'ils les forcent à faire des choses qu'ils ne veulent pas, c'est ça?
Ah, OK.
Moi, c'est ça que j'ai entendu. Phil, c'est ça que t'as entendu?
Moi, j'entends juste des traîtres qui parlent.
Il y a l'hôtel motel Coconut qui est vraiment spécial.
Vous avez l'air prêt à aller vivre une belle expérience, les gars. Yes, Coconut!
si on veut aller dans le luxe, il y a l'Auberge Godefroy, hôtel et spa de l'autre bord du pont La Violette, mais je pense pas que...
Ouais, tabarnak! Un petit spa! Un petit spa vendredi soir!
Non, mais...
Ok, je veux pas, mais...